La Plume, l'émission du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Cossenard, présentée aujourd'hui par Jean-Claude et Cassandra.
Oui, alors aujourd'hui nous allons parler d'un rapace qui est un rapace que tout le monde connaît, ou dont tout le monde a entendu parler. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait il a toujours été présent dans la région. Il y en a depuis des générations et il y en a encore à ce jour. Très peu de gens le voient, mais il est bien là, autour de nous et dans les grands causses. Ce rapace, en fait, il est un petit peu particulier parce que c'est un oiseau emblématique. Hein. Il a été pendant très 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 longtemps l'emblème des dieux, des princes ou des états. Hein, et on pense en particulier à tout ce qui touche aux symboles de les légions romaines, des choses comme ça. Et ce qui est certain, ce que tout le monde aussi reconnaît, c'est qu'il est le roi des airs, c'est en fait le roi aussi des oiseaux. Et bien finalement, c'est notre ciel qui est son royaume.
C'est l'aigle royal. Alors, je vais vous donner une petite citation historique sur l'aigle royal. En Alaska, entre 1917 et 1952, ce sont 128 273 pygargaqueux à tête blanche qui sont tués. En Norvège, 223 487 rapaces, dont 61 157 aigles royaux et pygargaqueux blanches sont détruits entre 1846 et 1869. Entre 1870 et 1899, des primes sont versées pour 27 319 aigles. Puis jusqu'en 1963, ce sont encore 168 aigles qui sont abattus. En Allemagne, dans le nord de Rhénanie du Nord-Westphalie, des primes sont versées pour la destruction de 210 520 rapaces entre 1951 et 1968. En Basse-Saxe, prime pour 38 462 rapaces entre 1959 et 1963. Au Schleswig-Holstein, désolé pour mon accent, pour 37 792 entre 1960 et 1968, en Hesse pour 61 353 entre 1951 et 1957. En totalisant les chiffres de destruction officielle entre 1950 et 1970, ce soit encore très récemment, plusieurs millions de rapaces sont abattus en Europe par les chasseurs et les piégeurs, tout particulièrement en France et en Allemagne, pays où les milieux cynégétiques sont particulièrement bien organisés. À la même époque, l'aigle royal aux États-Unis est traqué avec les mêmes méthodes très modernes comme l'avion.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac. Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pourrit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près de là, endormi. Or soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour,
alors, comme on vient de le voir, cet aigle royal, en fait, c'est un oiseau qui est assez particulier parce que, en fait, il a été à la fois persécuté et pourchassé, mais il a été aussi souvent considéré comme un animal mythique. Aquila chrysaetos en latin, ça veut dire en fait aigle en or, donc il est symbole de gloire. Il servait d'étendard aux légions romaines. Il est encore utilisé comme auxiliaire de chasse dans certains pays comme la Mongolie. Il est utilisé aussi en fauconnerie. Mais à côté de ça, effectivement, il est persécuté. Il a été détruit pendant très très longtemps, un petit peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était considéré comme un concurrent parfois pour les chasseurs. Il était aussi considéré comme un trophée. Et donc, il était soit naturalisé, soit ses plumes pouvaient servir à des coiffes. Hein, on voit ça avec les Indiens Sioux aux États-Unis. Alors, cet aigle royal, en fait, on va parler un petit peu de lui quand même. Du point de vue morphologique, c'est un oiseau qui est extrêmement puissant. Hein. Il arrive à avoir une envergure de 2 mètres. Alors, ce n'est pas énorme si on considère un vautour fauve qui lui peut arriver jusqu'à 2,80 m, 3 m d'envergure. Mais en fait, c'est un oiseau qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus puissant et qui a donc des capacités de chasse bien plus importantes. Par rapport à ses capacités de chasse, on va dire, bon, l'envergure, ce n'est pas énorme, mais le poids, alors il y a un dimorphisme sexuel assez accentué, puisque les femelles peuvent arriver jusqu'à 6 kg, et les mâles, eux, 3-4 kg. Ce qui fait la force de l'aigle au niveau de sa chasse et de sa capture de proie, mais c'est avant tout la vue. On considère qu'un aigle a une vue qui est à peu près 8 fois supérieure à celle de l'homme, ce qui est énorme. Il a aussi un bec très puissant, bien sûr, puisque ce bec lui permet de dépecer des proies avec des peaux relativement épaisses. Et puis aussi, il a des serres très puissantes, puisqu'on considère que d'un coup de patte et d'un coup de serre, il peut facilement transpercer une proie, une peau, celle des lapins, les renards ou parfois des lièvres. Pour ce qui est des autres espèces d'aigles, ben en Europe, en fait, nous avons trois aigles, donc l'aigle royal, bien sûr. Nous avons aussi un aigle qui est un petit peu plus gros que l'aigle royal, mais qui est beaucoup plus rare, et qui lui est situé plutôt dans la partie sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne et des pays un petit peu plus au sud. C'est l'aigle impérial. Et puis plus au nord, nous avons le pigargue à queue blanche, qui est aussi un aigle dont on a parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de la répartition des effectifs, alors il faut savoir qu'il est présent, l'aigle royal, sur les quatre continents. Donc finalement, c'est une espèce qui est assez répandue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est connue, on peut dire, du monde entier. En Europe, actuellement, à ce jour, on peut considérer qu'il y a environ 10 000 couples d'aigles royaux. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est quand même sur un vaste territoire. Et il faut savoir que la majorité de ces couples sont situés dans les pays nordiques, ou alors en Espagne, où il y a quand même un bon millier de couples aussi. Pour ce qui concerne la France, puisque c'est ce qui nous intéresse, on considère actuellement qu'il y a environ entre 450 et 500 couples d'aigles royaux en France. Là, on est vraiment sur des chiffres qui sont tout petits. Ces populations étant situées principalement dans les Alpes et puis tout le pourtour des Alpes, les Pyrénées bien sûr, un petit peu, il y a une trentaine de couples en Corse, et puis actuellement nous avons une cinquantaine de couples dans le Massif central, ce qui est pas mal, on en parlera un petit peu après. Ces couples étant dispersés sur l'ensemble du sud du Massif central, à la fois sur les départements comme la Lozère, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, la Haute-Loire, l'Ardèche et le nord du Tarn. Comment il chasse cet aigle ? Ben, en fait, c'est un oiseau qui a des multiples talents. D'une part, c'est un très bon planeur, mais c'est aussi un oiseau qui est capable de voler à ce qu'on appelle un vol battu. Et dans ce cadre-là, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 100-170 km/h en vol battu. Et en piqué, lorsqu'il descend sur une proie, il peut arriver à des vitesses assez astronomiques, on va dire. 300 km/h, c'est pas négligeable, c'est une vitesse d'approche très très importante. Ces méthodes de chasse, il faut savoir que l'aigle royal, il ne capture pas des proies en vol. En général, il les capture au sol. Et lorsqu'il y a des couples d'aigles royaux, souvent, ils chassent en tandem. Donc, ils volent à moyenne altitude, ils repèrent leur proie de très très loin. Et en fait, ils arrivent pratiquement à rase motte et ils capturent les proies au sol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, l'aigle royal utilise énormément les courants naturels. Ici, on a beaucoup de parapentistes. Les parapentistes savent qu'il existe donc deux types de courants, que ce soit les courants dynamiques qui sont créés grâce à les différences de température entre le sol et l'atmosphère, ou des courants liés au vent. L'aigle royal est un très très bon planeur. Pour ce qui est des proies capturées, alors là sur la région, c'est relativement simple. L'aigle royal, c'est un rapace qui est très opportuniste, c'est-à-dire qu'il va attraper tout type de proies. Ça peut aller donc des lagomorphes, il y en a de moins en moins, des lapins, et ça devient de plus en plus rare à capturer. Il peut aussi capturer effectivement des lièvres, il ne faut pas le nier. Il peut capturer aussi des oiseaux, mais il capture aussi énormément d'animaux qui sont beaucoup plus décriés par certains chasseurs, comme les fouines, des martres, des belettes. Il peut capturer aussi des chats errants, ça arrive assez couramment. Et il peut capturer aussi donc, parfois des petits renards ou des petits chevreuils, des choses comme ça. Il faut savoir que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, un aigle royal, c'est 6 kg maximum. Donc il est hors de question qu'il apporte un mouton. Ça, il ne faut pas affabuler. Ça fait partie des histoires. L'aigle royal n'emporte pas les enfants non plus, bien sûr, il faut le dire, parce que ça faisait partie un petit peu de l'historique de l'aigle royal. Et puis, il faut savoir qu'aussi l'aigle royal, lui, ne tue jamais uniquement pour le plaisir de tuer. Lorsqu'il tue une proie, c'est vraiment pour se nourrir et pas autre chose. Et il est évident aussi qu'en période de disette, l'hiver, l'aigle royal devient volontiers charognard. C'est-à-dire que s'il trouve des cadavres d'animaux morts, eh bien, il va les manger. Et surtout lorsqu'il s'agit de jeunes qui ne sont pas tout à fait aguerris pour la chasse. Et à ce moment-là, effectivement, il capture beaucoup de proies qui sont handicapées en priorité. Mais il mange aussi sur des cadavres. Donc le mythe de l'aigle royal, leveur d'enfants ou de moutons, ça c'est vraiment à mettre de côté. Et donc on ne peut pas considérer que le rapace soit, l'aigle royal soit un animal cruel, puisqu'il ne tue que pour se nourrir. Il faut savoir qu'en France, donc, ce rapace, il a été protégé. Ça a été un des premiers oiseaux pratiquement à être protégé en France, à partir de 1964, et on verra un petit peu plus loin pourquoi cela a été le cas.
Du coup, comme on disait, l'aigle royal a pas mal été chassé, d'où cette petite citation qui est parue dans la revue Le Chasseur français en mars 1933, où une capture a été réalisée en automne en 1929, dans l'Aisne. L'enfant d'un garde-chasse, ayant entendu un piège à corbeau amorcé d'une pièce de lapin pour prendre des coriaces, eut la grande surprise de trouver un matin son piège occupé par un grand rapace empêtré dans la broussaille. C'était un bel aigle royal, pas très vieux, qui n'était retenu que par une griffe. Tué d'un coup de bâton, il fut naturalisé à Reims, où il fut longtemps exposé.
Voilà, donc cet aigle royal, on va un petit peu expliquer ce qu'est sa vie au fil de l'année, puisque ça, ce sont des observations que j'ai l'occasion moi, de faire couramment, hein, puisque je suis passionné d'aigle royal depuis l'âge de 14 ans, c'est le même qu'on puisse dire quelques décennies. Donc, si on considère les couples d'aigles royaux donc, qui sont sur la région, on va dire que, en partant janvier, février, mars, c'est une période qui, pour l'aigle royal, est relativement calme. Il va se contenter de recharger des aires, sachant que, d'une manière générale, l'aigle royal, il niche dans des falaises, il y a quelques exceptions, et surtout, il chasse soit sur les penchants dans les gorges, soit sur les plateaux ici qui bordent ces falaises. Je pense en particulier au plateau du Larzac, mais aussi aux autres causses comme le causse Méjean, ou le causse Noir, ou le causse de Sauveterre. Donc janvier, février, mars, ben nos aigles royaux, en fait, soit ils rechargent des aires, ils peuvent en avoir, certains couples en ont une ou deux, certains couples en ont 7, 8, 9. Donc ils vont se contenter d'amener des branches dans ces aires. Et dans le même temps, eh bien, ils vont faire un petit peu la cour. Les mâles vont faire la cour à la femelle. Donc ça peut être des offrandes de proie. Mais il y a surtout des parades spectaculaires qui consistent pour l'aigle à faire des piquets faramineux sur 200-300 mètres, carrément à la verticale. Et puis de faire une ressource, une boucle en bas, et on remonte 300 mètres plus haut. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ce rapace est unique à faire ce genre de choses. On appelle ça des vols en feston. Ce qu'il va faire aussi donc, dans cette période, eh bien, il va y avoir bien entendu des accouplements. Alors il faut savoir que là aussi, l'aigle royal est un des rares rapaces qui est capable, on va dire, de s'accoupler toute l'année. En général, les oiseaux, visiblement, ne font ça qu'au moment de la reproduction. Eh bien non, l'aigle royal, il peut y avoir des accouplements en période. Et d'une manière générale, les couples sont unis pour la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a que lorsqu'un des deux adultes disparaît, qu'il est remplacé éventuellement par un autre individu. Les sites où se trouvent ces aigles royaux sont des sites, ce sont toujours les mêmes. En fait, l'aigle royal habite ou colonise un site. Il a ce qu'on appelle un territoire. Ce territoire, il va couvrir environ 100 km². C'est énorme, hein, à partir du moment où l'aigle royal a trouvé son site de reproduction, mais il va se déplacer tout le long de l'année sur ce territoire et il va donc rechercher des proies. Donc janvier, février et mars, c'est construction des aires, les accouplements. Et puis alors vers le 15 mars, ici c'est la fourchette, c'est 10 mars, 20 mars, mais la femelle va finalement pondre un ou deux œufs. Avril, mai, juin, la couvaison, en fait, elle va durer 40 jours. Normalement, je vous l'ai dit, il s'agit de deux œufs. Il faut savoir que 18e, 19e siècle, il y avait couramment chez les aigles royaux des nichés à 2-3 jeunes. C'était courant. Actuellement, sur le Massif central et un petit peu partout en France d'ailleurs, il est très rare d'avoir deux jeunes qui arrivent à maturité dans une aire. Donc cette couvaison, elle va durer jusqu'au 1er mai, autour du 1er mai, première semaine de mai. Et à partir de là, il va y avoir une éclosion. Lorsqu'il y a deux œufs et qu'il y a deux jeunes qui naissent, il se passe une chose, on appelle ça le caïnisme. Hein. Souvent dans des périodes de disette, en fait, l'individu le plus fort, tue, entre guillemets, son frère ou sa sœur, surtout s'il y a des périodes où il y a des manques de nourriture importants. C'est la raison pour laquelle, le plus souvent, il ne reste qu'un jeune dans l'air. Alors, pendant cette période, au début, lors de la naissance, la femelle, elle va rester autour de l'air pendant un mois et demi, et c'est le mâle qui donc va subvenir aux besoins de la famille et aller chercher à longueur de journée des proies pour les ramener à la femelle qui elle, va distribuer ça à son jeune. Et cette période-là, elle va durer jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet, fin juillet, le jeune va être un petit peu abandonné par les parents qui vont en quelque sorte le priver de nourriture pour qu'il décolle et qu'il prenne enfin son envol. Alors on pourrait croire que les choses sont terminées à partir de ce moment-là, et bien non, parce que à partir de là, pour le jeune, il s'agit d'apprendre, grâce aux parents, à lui aussi pouvoir se nourrir et faire sa vie plus tard. Donc les parents vont l'initier à la chasse, le prendre avec eux pratiquement tout le temps en vol. Il n'est pas rare au mois de août ou septembre de voir trois aigles ensemble. En général, le jeune a des taches blanches sous les ailes et des taches blanches sous la queue aussi. Donc il est facilement reconnaissable. À partir du mois de septembre, donc, les parents vont continuer à l'éduquer jusqu'au mois de janvier de l'année suivante. Et puis ainsi, l'année se sera achevée. Et pour en finir avec ce jeune, il faut savoir que à partir du commencement de la reproduction suivante, c'est à ce moment-là que les parents vont le chasser, en général, et que pour le jeune va commencer une longue période d'errance. Hein, pendant 2 à 4 ans, il va se promener, il va se déplacer, il va faire des déplacements importants pour essayer lui aussi de trouver un territoire ou de remplacer un des deux individus qui, dans un couple éventuel, aura disparu. Par rapport à cet aigle royal, quand même quelques petits points importants. Hein. On a dit tout à l'heure qu'il était capable de piquer à des vitesses vertigineuses. On sait maintenant aussi qu'il est capable de monter à des altitudes très très importantes, puisque dernièrement on a constaté, grâce à un aigle qu'on a équipé avec une balise, qu'il avait franchi les Alpes à une hauteur de 3800 mètres, et il est allé côté suisse dans les Alpes suisses. Quant à la durée de vie de ces aigles royaux, en captivité, ils peuvent arriver à 30 ans. On considère que dans la nature, c'est beaucoup moins, 25, 30 ans. Et il faut savoir surtout que dans les 4 premières années de leur existence, sur 100 jeunes qui sont partis et qui ont quitté le nid, seuls 50% arriveront à passer le cap de ces 4 années d'existence.
Donc Donc c'était la biologie de l'aigle royal présentée par Jean-Claude. Rappelons effectivement que c'est un chasseur hors pair qui a souvent été considéré comme un concurrent, d'où cet article paru dans la revue Le Chasseur français en mai 1953. Le 28 janvier dernier, le boulanger Monsieur Fulconi de Saint-André-les-Alpes se rendait au village de Lambruis lorsqu'un aigle royal de 2,20 m d'envergure s'abattit sur le capot de sa camionnette. Reprenant son envol à faible hauteur, le rapace fut poursuivi par la camionnette dans les gorges de la vallée du Grand Bois. Monsieur Denoise, grand garde forestier, et Monsieur Roland, qui accompagnait le boulanger, réussirent finalement par abattre l'aigle à coups de manivelle.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise.
Alors, vous êtes dans l'émission La Plume du Centre de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard. Et maintenant, nous allons vous parler de l'historique de l'aigle royal dans le Massif central.
Oui, on va être un petit peu plus concret, puisque là, c'est quelque chose qui nous touche. En fait, en France, en 1979, ça remonte à quelque temps, c'est vrai, mais il ne restait plus que 200 couples d'aigles royaux. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que l'espèce, d'une manière générale, était en voie d'extinction. Et pour ce qui concerne le Massif central, ben, il ne nous restait plus que 11 couples dans ce qu'on appelle des zones refuges, essentiellement dans les gorges du Tarn, de la Dourbie, de la Jonte, du Trévezel, etc. 11 couples, c'était le minimum nécessaire pour qu'arrive à survivre cette population et pour qu'elle arrive à se renouveler. Comment en est-on arrivé là ? Mais en fait, nous avons une période de déclin. On a parlé tout à l'heure de persécution dont l'aigle royal avait été l'objet. Cette période de déclin, en fait, on considère qu'elle a été due à, d'une part, à la disparition du lapin. Hein. C'est vrai qu'avec les épidémies de myxomatose, l'aigle royal qui se nourrissait à l'époque à 80% de lapin a un petit peu revu son mode de capture de proie et de nourriture. Il y avait ça d'une part, mais il y a eu aussi des destructions massives, puisque entre 1930 et 1950, c'est pas si vieux que ça, on considère que 60% des effectifs d'aigles royaux du Massif central avaient disparu. J'ajoute même qu'à l'époque, dans les années 1930, il y avait des primes pour détruire l'aigle royal. Des primes étaient données, comme on considérait que c'était nuisible. Et donc, les gens qui démontraient qu'ils avaient tué un aigle touchaient des primes. Ces causes de disparition Et la manière dont ils étaient tués, ben, elles sont relativement simples. Hein. Il y avait les pièges à mâchoire. Il y avait l'empoisonnement sur des cadavres. Et puis il y avait les tirs. Il y avait aussi d'autres méthodes un petit peu moins courantes. On a retrouvé dans l'historique de l'Aigle Royal, dans les gorges de la Jaune, par exemple, on savait que les agriculteurs descendaient dans les aires de rapace, puisqu'elles sont bâties dans des falaises inaccessibles, des fagots enflammés pour mettre le feu aux aires. Et comme les aires étaient rechargées avec du bois, bien sûr, ben, ils faisaient brûler à la fois l'air et les jeunes qui étaient dedans. C'était des méthodes de destruction assez radicales. Ensuite, on a assisté un petit peu à une période de renaissance. Et si nous connaissons aussi bien ce qui s'est passé depuis, en gros, 1970 sur l'Aigle Royal, sur le Massif Central, c'est parce que nous avons créé, dans les années 75, un groupe qui s'appelle le groupe de surveillance Aigle Royal du Massif Central. Ce groupe, dont je fais partie depuis l'origine avec quelques autres, a été en fait constitué par des connaisseurs, des amoureux de l'Aigle Royal. Et puis on a décidé que finalement, ça serait quand même bien qu'on essaye de faire quelque chose, de savoir ce qui se passe et d'essayer d'agir en faveur de l'espèce. Donc ce groupe, nous l'avons créé dans les années 75. Et à partir de là, nous avons suivi systématiquement tous les couples que nous connaissions. Nous avons essayé à chaque fois, lorsque cela était possible, d'intervenir pour éviter qu'il y ait des problèmes sur la reproduction de ces couples. Et en fait, on peut dire qu'à partir de là, il y a eu une certaine renaissance avec, d'une part, la protection de l'espèce, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 1965, et puis aussi donc une meilleure connaissance de cette espèce en France. En fait, cet aigle royal, on s'est aperçu, et on vous l'a dit, qu'il fallait un territoire de 200 km² environ pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Il existe, on appelle ça un domaine territorial, c'est-à-dire le secteur où se reproduit l'aigle royal. En général, c'est donc un site où il y a des falaises, et il est certain que les causes de dérangement ou de destruction ou de non-reproduction sont totalement différentes si elles sont utilisées, entre guillemets, sur ce site qui est le domaine territorial, que les causes qui peuvent être à l'origine de sa disparition dans le cadre de son domaine vital. Le domaine vital étant constitué par le secteur de reproduction et par l'ensemble des terrains de chasse. À partir de là, donc, nous avons essayé un petit peu systématiquement de voir et d'apprendre à connaître cet aigle royal. Nous avons fait systématiquement, après les périodes de reproduction, des descentes dans les airs pour aller récupérer le reste de proie. Il était important aussi pour nous de savoir un petit peu ce dont se nourrissait l'aigle royal. Donc effectivement, on s'est aperçu que c'est ce qu'on appelle un super prédateur. Hein. Non seulement il est capable de capturer des proies comme les lapins ou des petits renards ou des choses comme ça, mais c'est aussi un animal qui est capable de capturer d'autres prédateurs, que ce soit des carnivores, fouines, martres, ou même des rapaces, ou même des corneilles, ou des pies, ou des animaux comme ça. Donc c'est vraiment un animal qui a un éventail de proies potentielles énormes. Il peut capturer aussi des reptiles, on s'en est aperçu, et donc parfois des charognes aussi. Par rapport aux actions concrètes que nous avons pu faire au cours de ces 30 années maintenant, ben effectivement, on a essayé d'éviter au maximum les causes de dérangement sur les sites de reproduction. Pour ceux qui étaient les sites de reproduction qui sont situés dans des zones dites protégées, comme le parc national des Cévennes, ça a été plus facile parce qu'effectivement, le parc national des Cévennes a mis en place des zones qu'on appelle des zones de quiétude, où certaines activités sont proscrites, comme l'utilisation de véhicules, les exploitations forestières dans des périodes où il risque d'y avoir des risques pour la reproduction, et des choses comme ça. En dehors de ces zones, c'est plus compliqué. Et donc il a fallu, au cas par cas, parce qu'on ne voulait pas en plus divulguer la présence de ces aigles, intervenir lorsqu'il y avait, par exemple, une course pédestre qui devait passer pas très loin d'une aire en période de reproduction. Il est évident que si un millier de personnes, comme ça peut arriver actuellement sur certaines pratiques sportives de loisirs, passent à proximité d'une aire à l'aigle royal, si le jeune est tout petit, il est foutu, quoi. Les parents vont abandonner, c'est une évidence. Donc il a fallu gérer en fonction des connaissances qu'on a, au cas par cas. Ça a permis, à mon avis, de sauver pas mal de fois des jeunes en particulier. Autre possibilité aussi de destruction ou de dérangement important sur les sites de reproduction, ce sont les exploitations forestières. L'exploitation forestière, souvent dans certains secteurs près de ces falaises, il y a des forêts qui ont été plantées par l'homme et qui donc sont exploitées. Donc il a fallu à chaque fois contacter les services compétents pour leur dire non, pendant cette période-là, il ne faudra pas exploiter. Il faudra le faire en dehors de la période de reproduction. Ensuite, il a fallu aussi intervenir parfois sur des problèmes de lignes électriques. Il faut savoir que dans les causes de mortalité actuelles, on trouve parfois le fusil, mais c'est de plus en plus rare, mais on trouve souvent des chocs ou des électrocutions. Électrocution lorsque les aigles se posent sur des pylônes qui sont mal isolés ou qui sont des pylônes qui sont idéaux comme perchoir pour l'aigle royal. Ça peut être aussi des problèmes liés à la percussion avec ces lignes électriques. Donc on essaye actuellement d'intervenir à chaque fois que cela est possible pour éviter l'implantation de nouvelles lignes électriques dans certains secteurs ou pour éviter que modifier un petit peu les lignes actuelles ou faire en sorte que les aigles ne puissent pas passer à proximité. Parmi les risques de dérangement aussi, donc, il y a la création de pistes. Création de pistes, parce que on sait très bien que plus il y a des pistes, surtout si ces pistes sont ouvertes au public, et plus le public va emprunter ces pistes, soit à pied, soit avec des engins. Et alors là, lorsque ces pistes sont situées à proximité des sites de reproduction, il y a aussi des risques de dérangement importants. L'escalade, c'est aussi un risque. C'est un sport de loisir qui s'est énormément développé. Donc là aussi, il a fallu un petit peu essayer de limiter certains sites où on avait tendance à créer des voies d'escalade très très proches des sites de reproduction. Et puis aussi, et surtout, enfin, il y a de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, un engouement important pour tout ce qui touche à la nature d'une manière générale, mais à l'observation des rapaces en particulier. Et il est certain que lorsqu'une aire ou un site de reproduction d'aigle royal est connu, si quelques personnes qui prennent les précautions d'usage, c'est-à-dire restent à des distances suffisamment importantes, vont voir ce couple ou vont voir le jeune, c'est pas trop grave, c'est ce qu'on fait nous lorsqu'on observe. Mais s'il y a des dizaines de personnes qui répètent à des dizaines de personnes qui connaissent un couple d'aigle royal et qu'on cumule tout ça, à la fin on peut se retrouver avec des sites où il y a une fréquentation qui fait que même si c'est bien fait, il y a aussi un dérangement. Ça c'est pour les sites de reproduction. Après il faut veiller aussi à ce que l'ensemble des domaines territoriaux, c'est-à-dire territoriaux et domaines vitaux, reste à disposition de l'aigle royal. Il est évident que l'aigle royal, c'est un chasseur, il ne chasse pas dans les sous-bois. Donc si le milieu se ferme, il y a de gros risques là aussi, pour que son territoire de chasse diminue. La découverte de proies va souffrir d'autant. Et donc à partir de là, il peut y avoir aussi des risques de disparition des couples. C'est important parce que c'est vrai que la disparition du pastoralisme avec des troupeaux qui transhument un petit peu et qui allaient un petit peu partout, c'est une des causes de fermeture du milieu, et ça c'est un élément important dans les causes potentielles des disparitions de l'aigle. Et enfin, nous avons en ce qui nous concerne ici une nouvelle problématique qui est quand même aussi importante, c'est l'implantation de parcs éoliens. Alors, parcs éoliens, a priori, C'est vrai que c'est bien parce qu'on renouvelle on utilise des énergies renouvelables. Ça, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il faut absolument prendre en compte l'impact que peuvent avoir ces parcs éoliens dans certaines zones où il y a des espèces emblématiques ou rares, comme ici l'aigle royal. Et alors, on s'est aperçu d'une chose, c'est que dans le cadre de ce groupe de surveillance rapace que nous avons créé, depuis quelques années maintenant, on fait systématiquement un bagage des jeunes aigles royaux pour arriver un petit peu à déterminer à la fois les causes de disparition, le nombre d'aigles qui arrivent à survivre, mais aussi pour arriver à connaître un petit peu leur dispersion et éventuellement le renouvellement des couples. Donc on pratique un bagage systématique depuis maintenant 8 à 9 ans de ces aigles royaux sur le Massif central. Ce que j'ai oublié de dire, mais c'est très important aussi, c'est qu'en fait, entre 1975, 11 couples d'aigles royaux, et actuellement, donc 2018, nous avons 44 couples d'aigles royaux sur le Massif central. Donc on peut considérer qu'on est un petit peu, non pas à l'origine du développement complet de la population, puisque c'est un ensemble de causes, dont surtout le fait que c'est une espèce protégée, mais on peut considérer que la population se porte très très bien, qu'elle n'est plus en danger d'extinction, ça c'est déjà énorme. Et dans le même temps, la population française d'ailleurs, qui était de 200 couples, et actuellement on considère qu'il y en a entre 450 et 500. Donc nous continuons à suivre ces 44 couples. La grosse différence, c'est que lorsque nous avons créé ce groupe Aigle Royal, nous étions 7-8 personnes, c'était largement suffisant. Mais actuellement, nous sommes 44 ou 45, toujours des passionnés d'aigles royaux, des spécialistes. Nous n'avons pas voulu créer une structure associative ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, nous considérons que notre passion nous suffit et que grâce à ça, nous formons un groupe très, très homogène. Et nous considérons que finalement, il n'y a pas nécessité de créer absolument une structure pour faire ce genre de travail. Il y a des gens de tous bords, hein, des retraités, il y a des actifs, il y a des gendarmes, il y a des techniciens du PNC, il y a des dentistes, il y a des commissaires, il y a des pompiers, il y a toute profession confondue, puisqu'il y a des gens de tous bords. Et ces gens sont répartis sur l'ensemble des départements qui est couvert par ces 44 couples d'aigles royaux, Aveyron, Lozère, Gard, Haute-Loire, Ardèche, Hérault et un petit peu et l'Aude aussi. Voilà. Dernier point, et point très important. Actuellement, depuis 3-4 ans, nous avons entrepris, grâce à un des membres du groupe, qui a obtenu un programme de bagages du Muséum d'Histoire Naturelle, du CRMMO, Centre de Recherche sur l'Immigration des Mammifères et des Oiseaux, un programme de marquage donc, bague, mais aussi un programme de pose de balises. Et grâce à ça, en quelques années, nous avons obtenu plus d'informations que nous n'en avions jamais obtenues sur l'espèce en 40 ans d'observation. Et donc nous avons notamment appris que lorsqu'un couple de Goroyal est sur son domaine vital et qu'on implante des éoliennes, et bien en fait, il modifie ses modes de chasse. Donc on peut considérer que même s'il n'est pas tué par ses parcs éoliens, le fait que ses parcs soient implantés sur son territoire font qu'en modifiant son comportement et en modifiant son territoire de chasse, il a beaucoup moins de possibilités de retrouver facilement ses proies, puisqu'il connaît moins les secteurs où il va. Donc il y a aussi une incidence indirecte sur la présence de ses couples. Voilà, j'espère, grâce à ces quelques paroles, vous avoir un petit peu informé, et avant tout sur le fait que si vous regardez dans les airs, ben, il est fort possible que vous voyez un aigle royal, ce n'est pas une surprise. Il y en a maintenant donc plus de 44 couples, et puis il y a aussi des individus erratiques. Pour ce qui concerne tout ce que je viens de dire, nous avons en fait à l'intérieur de ce groupe deux personnes qui ont édité un livre qui s'appelle « L'Aigle royal, biologie, histoire et conservation, situation dans le Massif central ». Alors c'est un livre très très complet qui raconte à la fois tout ce que je viens de dire, mais beaucoup plus en détail. Et la particularité de ce livre, donc, c'est que c'était, on peut le dire, quand il est sorti il y a quelques années, le livre de référence en matière de connaissances sur l'aigle royal en France. Je pense que c'était le livre le plus complet qu'il y avait sur l'espèce d'une part. Et alors la particularité aussi, c'est pas rien, c'est que les auteurs de ce livre, qui sont deux amis personnels, dans la mesure où nous avions depuis 30 ans récupéré quand même 4 ou 5 aigles royaux sur le centre de sauvegarde, eh bien, ont décidé de nous faire bénéficier de leurs droits d'auteur. Donc les droits d'auteur de ces deux éditeurs de livres, de ces deux rédacteurs, pardon, ben, la moitié vient au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Millau, et l'autre moitié vont à une réserve naturelle, qui est une réserve qui est dans les gorges de la Visse et sur laquelle il y a un couple d'aigles royales depuis des décennies.
Voilà, nous vous remercions pour avoir écouté cette émission et pour nous écouter aussi depuis le début. Et nous vous retrouverons dans une prochaine émission en septembre, l'activité du centre de sauvegarde étant un petit peu plus intense à partir de juin jusqu'à fin août. Merci beaucoup.
Merci.